Daphné, Faster Pussycat.
Annabelle, Faster Pussycat. Non, ça va pas.
Allez, on y va. Mélanie de Faster Pussycat.
Annabelle, Faster Pussycat.
Comment est-ce que vous avez, vous, entendu parler pour la première fois de Radio PFM?
Alors moi, c'était au lycée. J'étais au lycée à Gambetta. C'est là où tout arrive. Évidemment, des copains basaient une émission ou écoutaient une autre musique. Donc voilà, c'est par ce biais-là que moi j'ai entendu parler de PFM. Mais évidemment, on m'a emmenée dans les studios.
De force?
Non, 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 bah non, j'étais curieuse. Et donc voilà. Et après, j'ai emmené d'autres personnes à mon tour. Ça a été les copains de Easy Rider. Et Easy Rider a amené leur copine.
Ouais. Donc c'est pareil. Si, mais c'était un peu moins édulcoré, peut-être. Non, je rigole. Donc c'était aussi à Gambetta, c'était en première. Easy Rider donc connaissait PFM par Daphné. Ils ont commencé à faire une émission. Et puis, bien sûr, un mercredi après-midi, ils m'ont proposé de venir les voir, comment ça se passait. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai eu le droit d'intégrer Easy Rider pour faire une chronique sur les groupes musicaux, mais alors vachement hard punk et très féminin, surtout à l'époque, avec des groupes au début de Courtney Love, avec les Daisy Chenso, des No Means No, après un peu plus vif et tout ça, agressif. Et puis on nous a proposé, Bernard, je crois, m'a dit, tu devrais essayer de faire une émission, pourquoi pas, et tout. Et puis à l'époque, il y avait Annabelle, et donc toutes les deux, un soir, après une fête, on a décidé donc de mettre en place l'émission de Faster Pussycat. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'était peut-être l'idée de départ de Faster Pussycat?
Alors, l'idée de départ de Faster Pussycat, ça remonte en 92, hein, je crois, si je me trompe pas. On s'était dit qu'on voulait faire donner une touche féminine, déjà, faire une émission avec des voix féminines à la radio, parce que moi, à l'époque, j'avais le droit d'intégrer Easy Rider également, mais derrière la technique et sans dire un mot. Donc, les manettes, ça allait, mais le reste, fallait pas trop en demander. Et puis, on s'est dit, ce serait bien de passer des choses qu'on aime bien. Donc, c'était tourné au départ vers des choses un petit peu plus 60s, 50s, du rock garage. On avait une rubrique aussi à l'époque qui concernait une grande actrice des années 50 ou 60, donc pour le début.
Et puis surtout, il y avait cette idée, tu sais, de faire venir des groupes et qui viennent jouer en live dans les studios de PFM, quoi. Et après, donc Daphné est venue nous rejoindre. Voilà. Et puis est née, eh bien, les relations outre-mer avec l'Australie, les États-Unis. Et je crois que le premier groupe qu'on a reçu, c'était les Early Hours. La première tournée et les groupes à venir jouer en live. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres avant. Hein. Je crois que c'était les Early Hours, les premiers.
Les Neckbreakers n'étaient pas venus avant?
Non, ils n'étaient pas venus. C'était au Pharos. Ils n'étaient pas venus au studio de PFM, d'accord, je pense. Donc, je crois que ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a donné naissance à une association qui s'appelle Vertigo, soutenue par PFM, avec organisation de concerts. Et voilà. Donc, on a réussi. Hein, parce qu'au début, c'était vraiment les groupes locaux. Hein, ouais. Je crois que c'était donner la chance aux petits jeunes et puis de nous faire partager leur vision de la musique. Et puis, on a eu de la chance parce que ça s'est fait quand même au groupe qu'on passait dans Faster Pussycat et puis quand même connu au niveau indépendant pour nous. Mais
des groupes qui venaient de vachement loin. Ouais. Donc, on parlait de l'Australie. Puis, ce qui était génial aussi, c'est que les concerts de Vertigo se faisaient sur un lieu unique à Arras qui a disparu. C'était la péniche. Donc, une péniche qui était tout le monde la connaît sur Arras, à mon avis, qui était hackée. Et puis, c'était devenu la salle de concert. Il y avait pas mal de monde à chaque concert. C'était plutôt sympa. Puis nous, ça nous permettait aussi de voir les groupes qu'on aimait bien.
Se faire plaisir en direct. Donc, ils venaient dans les studios de PFM pour l'interview. Et ensuite, le soir, il y avait le concert. Donc, vraiment, c'était une super époque, quoi.
Ouais, on va reparler juste après de cette association Vertigo. Je reviens sur l'émission de radio. Est-ce que vous vous souvenez de la première émission, donc Faster Pussycat, et qu'est-ce qu'il y avait dedans?
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors déjà, on avait fait une introduction terrible en disant qu'on allait mettre une petite touche féminine dans ce monde cruel d'hommes qu'on arrivait. C'était un peu débile ce qu'on avait préparé. On était très, très fiers de nous. Et on avait passé du Chuck Berry, on avait passé du Zum, Bodidley. Qu'est-ce qu'on avait passé encore?
C'est écrasé dans un avion. Buddy Holly. N'importe quoi. Carl Perkins, ouais. C'est lui. En fin de compte, toute la veine des années 50, très, très rock'n'roll. Et on n'était pas peu fiers. Hein.
On est resté en fait dans toute cette veine 50 avec en plus les compiles Desperate Rock'n'Roll, Las Vegas Grind, des trucs un peu obscurs qu'on retrouvait notamment dans le monde des Cramps. Et puis après, on a dérivé plus vers le garage.
Ouais, le 60s, le garage avec tous ces petits groupes comme les Sonics, les Wailers, Them, les Fuzztones après, les Cramps. Puis on a eu des super objets en main à cette époque. Quoi. Il y avait des vinyles, les Big Backyard, c'est pas les Big Backyard, les Back from the Grave. Il y a eu au moins 7 ou 8 volumes, donc c'était vraiment des sources, des nuggets. Et en fin de compte, c'était des groupes comme les Cramps qui rééditaient quoi, des anciens morceaux. C'était hyper dur à trouver. Quoi. Donc là, nous, vraiment, on a eu de la chance.
C'était assez pointu en plus. Et puis quand on avait la chance de... Parce que quand on allait au concert, il y avait généralement des ventes de vinyles qu'on retrouve peut-être moins maintenant, beaucoup moins d'ailleurs. Et on pouvait s'acheter tout ce qui nous concernait pour passer dans l'émission. Ouais. Donc c'était...
À des tarifs aussi préférentiels, comme aujourd'hui.
T'avais tout, t'avais les t-shirts, t'avais les fanzines, t'avais 45 tours, t'avais les vinyles, et t'avais pas de CD, quoi. Et donc, c'était vraiment encore authentique, t'avais l'impression d'appartenir encore à ce monde à travers les concerts, non, c'était vraiment authentique, quoi.
Alors, vous l'avez évoqué, il y a aussi toute une dimension où vous parlez de cinéma. Le cinéma qui a beaucoup de rapports avec la musique, directement, les musiques de films. Et puis, la musique rock'n'roll qui a servi de bon son aussi à beaucoup de films, dont le film Faster Pussycat qui a donné le nom à votre émission. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez exploré le cinéma à travers cette émission de radio? Et puis toi, Daphné, peut-être plus précisément, comment cette expérience radio t'a peut-être servi dans ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, le choix du titre de l'émission, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là au début de Faster Pussycat, même si on se connaissait très bien, puisque je faisais autre chose sur PFM. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu une passion commune, la musique et le cinéma. On se retrouvait dans ces deux domaines-là. Et Faster Pussycat, c'est symbolique aussi, puisque c'est le film de Russ Meyer, où il y a trois actrices très plantureuses. sexy au possible qui vont exterminer une famille dans le fin fond de l'Amérique profonde. C'est un film très très violent, enfin, qui montre des filles très sexy mais violentes. Donc est-ce que l'envers des filles de Faster Pussycat, c'est ça? Vous ne connaîtrez pas notre intimité. Mais en tout cas, on voulait jouer, on voulait jouer là-dessus sur nous aussi, on en a, quoi. Et il n'y a pas que des mecs qui peuvent faire des émissions de radio et parler de rock'n'roll. Même si on a choisi aussi d'explorer le côté un peu people du milieu du rock'n'roll. Mais en même temps, on en rit parce que... on se moque de tout ça parce que les groupes que l'on passe dans l'émission, de toute façon, ne sont pas people. Ou le sont devenus à leur insu, comme les White Stripes,
à leur insu, volontairement, ça dépend.
Oui, parce qu'ils ont joué sur leur image. Et puis, c'est vrai que l'émission... Enfin, vous aviez déjà cette rubrique-là sur les actrices, mais en fait, dans l'émission, il y a toujours eu un lien avec le cinéma par rapport à nos activités extérieures. Après, c'est vrai que moi, la radio m'a permis de me trouver professionnellement par rapport au contact avec les gens et la façon d'interviewer, d'accueillir les gens, ne serait-ce que le faire effectivement dans une émission, permet de savoir que c'est ce que tu veux faire aussi dans la vie et alors à travers le cinéma ou la musique, quoi. Donc moi, ça s'est fait vers le cinéma.
Je crois qu'il y avait aussi une nuit des courts-métrages que tu organisais, que tu participais à organiser avec la radio.
Oui, il y a eu cette idée de diversifier un peu les activités de PFM. Effectivement, j'avais mis en place pendant 3 années, il me semble que ça durait. On avait mis en place des soirées courts-métrages avec le Norrois. Et c'était pour montrer que... à l'époque, je faisais aussi une rubrique cinéma, pour montrer qu'avant d'arriver au long, on passe par le court et qu'il y avait des gens intéressants aussi à rencontrer. Et c'était l'occasion, effectivement, de faire découvrir le court-métrage à Arras à cette époque. Et on a fait ça sur 3 éditions, qui ont plutôt bien marché, puisque c'était archi-complet. Et on a refusé du monde... quasi à chaque soirée, quoi.
Alors donc je reviens sur l'association Vertigo. Donc là, c'est encore une nouvelle fois intéressant puisque c'est une initiative qui déborde en fait de l'émission radio pour arriver là à quelque chose qui vient animer la ville. Comment ça s'est organisé? C'est vraiment venu de ça, de l'émission qui déborde sur des concerts, la rencontre avec des gens?
Ce qu'il y a, c'est que si tu ne fais qu'écouter de la musique, à un moment donné, tu es frustré de ne pas pouvoir voir ces groupes. Donc il fallait trouver une solution. Déjà, nous, on bougeait pas mal. On a fait des déplacements. Souvent, on va à Paris, aller à Bruxelles, on s'y rend encore. On est allé en Allemagne. Et puis, on allait même jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Lyon, le temps d'un week-end, juste pour voir les groupes, quoi. Donc, à force, tu rentres un petit peu dans ce milieu-là, en voyant que c'est un monde comme c'est assez underground. Bon, c'est pas totalement pourri par l'argent ni tout ça. Eux, c'est encore le plaisir de jouer. Donc, nous, ça nous a donné cette envie de faire venir ces groupes. Et puis, tout ce qui s'est passé simplement, c'est qu'un jour, on a reçu le disque des Early Hours à la maison. Et puis, on était vachement emballés parce que c'était du rock'n'roll, mais... avec plein de mélodies, voilà, et puis très 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 naturel, ouais. Et puis ça nous a ouvert, je sais pas, on était tous
en le truc aussi qui a débloqué la chose, c'est les Quiet Kings qu'on avait rencontrés au Rockline. On avait discuté avec eux.
Il y a
longtemps, je sais pas la date.
C'était pour Faster Pussycat.
C'était en 93.
C'était si tard que ça.
Ouais.
C'était non, mais au Rockline. Rockline. Parce qu'après, ils sont venus au Pharos.
Beaucoup plus tard.
Et donc, si tu veux, on a reçu l'album et puis on était tous emballés. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer d'organiser... ils nous demandaient d'organiser des concerts, si on avait des touches en France, quoi. Puisque comme on partait un petit peu à droite et à gauche. Et puis, on s'est dit, pourquoi nous, on le ferait pas, quoi. Et quand on les a reçus, puis on a essayé de monter de fil en aiguille quelques concerts. Ils ont même joué à l'Internat Ville d'Arras. Donc, c'était inédit. Ils sont venus dans les locaux de PFM. D'ailleurs, les Early sont restés 3 semaines à Arras et ça a été la folie, mais alors totale. Toutes les filles venaient taper à notre porte pour demander à voir les Australiens parce qu'ils allaient partout. Donc c'était vraiment bien et ça nous a motivés pour la suite des concerts, quoi. Et donc voilà, donc on avait besoin bien sûr de faire ça d'une manière légale. Donc on a créé l'asso qui regroupait les gars de Real Cool Trash, de Dizzy Rider et puis nous, quoi. Et puis on a pensé à un titre bien sûr de film qu'on appréciait et voilà. Donc, Vertigo, pour le vertige des concerts. Donc, voilà.
Alors, toute une série de concerts, peut-être sur combien d'années, combien de concerts, et puis comment ça s'est arrêté cette aventure?
Non, il y a eu une programmation de 10 mois exactement sur la péniche et on faisait 1 à 2 concerts par mois.
Parce qu'il n'y avait pas que la péniche, il y avait le Pharos aussi au départ. Ouais. Hein, c'était en partenariat avec le Pharos.
Et entre les concerts, on faisait des soirées pour amener de l'argent en fait, pour financer les groupes qu'on faisait.
Des soirées à thème à la péniche.
Donc ça a été des groupes... américains, australiens, tu as eu les Anthem Duo côté américain, tu as eu les Early Hours, il y a eu les Zeros aussi qui venaient de Californie,
les Edcotes, les Ed Coties,
il y a eu également un groupe français qui était
Jekylls.
Les Jekylls étaient venus, ouais, ouais. Et un groupe norvégien, les Yums, pas les Yum Yums, mais les Basement Brats. Mm. Ouais. Donc on a touché un petit peu, si tu veux, de tous nos contacts. Et puis c'est vrai que c'était à une cadence tellement effrénée que par moments... Bon, puis on avait quand même un peu peur parce que ça allait jusqu'à 50 personnes minimum pour les concerts. Mm. Mais il ne fallait pas non plus qu'on perde un peu d'argent dans cette histoire. Donc on s'est arrêté au moment où... Bah, tout allait bien, mais ça devenait après... on était vachement sollicités, quoi. Et d'autres groupes, quoi. Un autre niveau qui devenait quand même un peu plus commerciaux que les autres. Et là, il y avait le problème d'argent qui rentrait en jeu. Et nous, on ne voulait surtout pas avoir affaire avec ça, quoi. Ça restait encore par passion. Parce qu'il faut savoir que des personnes de l'association tournaient avec les groupes, quoi. Hein. Donc, ils partaient en France, ils partaient en Allemagne, ils partaient en Espagne. Donc, bon, ce n'était pas non plus... comme on travaillait quand même en même temps, il fallait faire ça sur nos jours de repos ou de vacances. Et c'est vrai que c'était très prenant, mais on fait plaisir. En fin de compte, les 10 ouais. groupes qu'on a fait venir, c'était sur le moment. Mmh. Bon, bien sûr, on aurait peut-être aimé faire Red Cross, Teenage Fan Club, tout ce truc-là, quoi. Mais bon, c'était trop cher.
Alors, je reviens une nouvelle fois à l'émission de radio. Donc, bon, pour ceux qui n'ont jamais écouté cette émission, on peut résumer ça aussi à trois furies qui passent du rock and roll à fond la caisse. Ouais, il y a un côté comme ça. en tout cas, une émission riche en énergie. Et est-ce que vous aviez peut-être, je sais pas, un background au niveau radio? Est-ce que vous écoutiez d'autres radios qui avaient un peu ce style-là? Et puis surtout, comment vous vous intégriez à une grille de programmation? Comment vous la voyez? Est-ce qu'elle était aussi riche en énergie à vos yeux?
Alors, par rapport aux autres radios, déjà, on va commencer par là. Moi, je sais que j'écoutais beaucoup Radio 21, à l'époque, quand c'était encore de la bonne musique et du bon rock, parce que là, depuis quelques années, ça, c'est vraiment pourri. Mais ça m'a permis de découvrir pas mal de trucs, cette radio, qui est une radio belge, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, c'est vrai que la Belgique, c'est quand même un vivier, aussi bien au niveau concert, découverte, parce que au niveau musical, on découvrait aussi pas mal de choses en allant dans des petits concerts en Belgique, des premières parties ou des groupes qui étaient associés avec d'autres qu'on connaissait pas forcément, et puis ça nous ouvrait d'autres horizons musicaux, parce que faut dire aussi que Faster Pussycat, là on a décrit ce que c'était au début, mais depuis ça a quand même évolué. On passe des choses, on va dire, de la power pop, du punk rock, on passe toujours du garage, mais bon, c'est plus aussi présent que ça ne l'était avant, de la pop, enfin, c'est vraiment très 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 varié, du punk rock et puis
la lounge music.
De la lounge music, on a d'ailleurs fait une spéciale lounge music qui était très appréciée. Et puis par rapport à la grille des programmes.
Ouais, comment vous voyez à l'époque les autres émissions? Bon, je pense par exemple à Olivier qui me disait avant qu'on arrive, il passait du Genesis.
Mais on était le seul groupe de filles à faire, donc on n'avait pas non plus de référence. Et non, je rigole. Mais bon, pour nous, c'était surtout le côté innovateur, quoi, de l'époque, ouais. Parce qu'on était puis surtout trois filles qui parlent de rock, de ciné, sur un ton en plus. C'est ce que j'espère, quoi. C'est que ça a vraiment été sincère de notre part, parce qu'à chaque fois qu'on parlait, on parlait des choses qui nous faisaient vibrer, quoi. Donc pas forcément dire alors ça c'est pointu, ça nous plaît, non, quoi, pas du tout. Et puis moi personnellement, je me suis jamais souciée des autres émissions, quoi.
Non, on fait ça vraiment par plaisir, et on a envie de transmettre notre plaisir d'écouter certains morceaux ou de voir certains films, et je pense qu'on transmet cette énergie-là parce qu'on aime ce qu'on écoute ce qu'on regarde, et le faire partager, mais ça n'a jamais été en réponse à quelque chose qu'on entendait ou qu'on n'entendait pas dans la grille de PFM, quoi. Mmh.
J'écoutais pas la radio, moi, du tout.
Moi donc, non plus. Par contre, j'écoutais de la musique, mais depuis mon enfant, je suis bercée par la musique rock, par le biais de mon père. Et c'est vrai qu'on faisait les baloches, tout ça. Donc, le rock, ça a toujours été... Moi, le grand souvenir, ça a été les Pretty Things et les Yardbirds à Lillère. On a pris notre micro avec Mélanie, on est allé à Lillère, on est allé interviewer un groupe que mon père m'avait fait découvrir, quoi. Et puis on apprenait l'anglais, enfin c'est comme ça qu'on a appris l'anglais. En fait, c'est vrai aussi que le fait de faire venir des groupes, d'aller les voir en concert, d'essayer de discuter avec eux, de faire un peu notre fan club, en fait on a vachement progressé en anglais. Et aujourd'hui, ça nous sert aussi.
J'ai un souvenir d'interview, pas si vieux que ça, mais du groupe Yoamai, qui est un groupe australien, qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui, maintenant, a fait un petit carton en Australie. Et on l'avait filmé, cette interview. Elle avait été, j'avais fait le compte-rendu dans Presto. Et c'était vachement drôle, parce que le mec, il nous avait à trois autour de lui. Et il est complètement halluciné. Il nous regarde et ça le bombarde de questions. Et le pauvre, il ne sait plus quoi répondre, il regarde à droite, à gauche, et il est complètement halluciné. C'est vrai que c'était c'est des grands moments, comme les interviews qui ont été faites à la radio au sein des émissions. On peut quand même se féliciter parce qu'on faisait traduction simultanée, donc c'est pas évident avec des groupes qui parlent anglais de retranscrire tout de suite.
Non, mais je crois qu'on a une telle énergie de vouloir faire partager que ça passe.
Et puis c'est le style de musique aussi qui le veut, quoi, parce que ça nous met tout de suite, ça nous booste, quoi. Dès qu'on entend ça y est des accords, on rentre dedans, et puis voilà, quoi, c'est que ça a encore de l'effet, donc on peut poursuivre encore Faster Pussycat. Le jour où on sera éteinte, tu sauras que...
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc vous êtes maintenant toutes les trois mamans, et vous continuez
on est rock'n'roll jusqu'au bout.
Qu'est-ce
qu'il joue, le tien? La basse. Et la tienne, elle fait quoi?
Donc toutes les trois mamans, mais vous continuez cette émission. Ça demande aussi pas mal de des contraintes. C'est quand même une émission. Voilà. qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas le lâcher aujourd'hui?
Je crois que c'est tout simplement une passion. Enfin, comme le fait de continuer à aller à des concerts, de se déplacer, même si on le fait peut-être moins souvent qu'avant, parce que il y a, comme tu dis, des contraintes. Et puis, mais on a encore envie de découvrir. Et puis d'aller dans la salle voir les groupes qu'on aime avec d'autres fans. Et puis, on a envie de continuer à faire l'émission et puis à faire partager aussi à d'autres, faire découvrir la musique qu'on aime. Et puis, on va pas s'arrêter.
Non, je pense. Parce que c'est vraiment essentiel à notre pas survie, mais je veux dire, ça fait vraiment ça fait partie intégrante,
inhérente, de nous.
Moi, je conçois pas d'arrêter la radio, quoi. Même si effectivement on a un peu de mal parfois à se retrouver toutes les trois sur Faster Pussycat, mais je conçois pas d'arrêter.
Puis ça te permet d'évoluer aussi et de progresser, quoi. D'avoir cette activité, c'est une chance. Ça t'ouvre plein d'horizons. Puis rien que quand tu découvres pour la première fois, tu sais, un morceau qui t'emballe, tu as tout de suite envie de le faire partager. Et c'est ça qui est super positif dans la radio, d'avoir cette chance de pouvoir être là et de pouvoir parler de la musique, de ce qu'on aime et de le faire partager. Et ça, c'est une chance.
C'est apprécié par les auditeurs aussi. Ils le ressentent vraiment comme ça, puisque pas plus tard que la semaine dernière, un auditeur a téléphoné pendant l'émission pour dire que vraiment, il était content. Il écoutait tout le temps Faster Pussycat et puis que ça lui faisait découvrir plein de choses et que c'était en toute simplicité, que vraiment, c'était l'émission qui lui convenait. Donc, je crois que c'est important aussi d'avoir ce retour-là de la part des auditeurs quand on peut l'avoir. C'est bien.
Peut-être un aspect, disons, plus négatif. Est-ce que votre pire souvenir de la radio, un truc qui ne marche pas, un truc qui est énervant...
Il y en a plein.
Mais ça, c'est dû à qui? C'est de votre faute.
Des problèmes techniques. On a déjà fait une émission, on alternait en technique, donc le seul micro. Et on était à trois autour du seul micro de technique, parce que les micros de l'autre côté ne fonctionnaient pas. Donc on se répartissait la parole comme on pouvait. On se poussait l'une l'autre pour prendre... après, on a eu des platines CD, des platines vinyles qui ne marchaient pas. On devait alterner avec une seule platine CD. Enfin,
non, bref, oui, je pense que un truc qui m'est arrivé, c'est d'arriver qu'avec des vinyles et que ça marchait pas ce jour-là. Donc bon,
l'impro, allons-y.
Je prends ce qu'il y a ici et on va essayer d'improviser. Ouais, mais c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'après tant d'années, je pense que maintenant on peut improviser aussi surtout.
Oui, parce que je me souviens, ça devait être une des peut-être la troisième ou quatrième émission et je m'étais retrouvée toute seule et j'avais préparé mon truc machin, parce que premières émissions c'était vraiment tout était écrit à la virgule près et puis le disque a pas démarré, j'avais pas appuyé sur le bon bouton, je ne sais plus quoi, en direct, panique à bord. Alors je crois que maintenant ça peut nous arriver 10 fois, c'est pas un problème. Non, on va toujours trouver une solution.
Mais ce qui est rigolo, justement, on l'évoquait tout à l'heure avec Anna quand on a commencé, on adorait un titre qui s'appelait 1960s, qui était repris par les Question Marks, et à chaque fois qu'on le mettait, ça ne voulait pas passer. Donc il y avait des mots. Alors là, on croit à la superstition, pas les nénettes. C'est notre côté un peu, tu vois, fille. Mais à chaque fois, quoi. Et ça n'a jamais marché. Donc on aurait voulu te le faire marcher là ce soir, voir si 12 ans plus tard, c'est toujours la même chose ou pas. C'était rigolo quand même. Ils nous poursuivaient. Ouais. Et ça nous poursuivra encore, quoi. C'était rigolo.
Sinon, on n'a pas de... Je pense pas qu'on ait eu, même avec les groupes, où ça c'est toujours très bien passé.
Même au niveau des enregistrements, ils jouaient en live. Après, ils ont pu, eux, sur certaines compiles, les faire écouter aux États-Unis ou sinon les faire diffuser sur d'autres radios lorsqu'ils étaient en Europe du Nord.
Mais d'ailleurs, on apparaît sur un enregistrement...
Sur des disques, sur un disque en Australie, à un moment, je crois, c'était Jack and the Beanstalk,
qui avait fait, au pays froid.
Ouais, en Norvège. Suède.
Ouais, il est sorti en Norvège, ouais.
Lors d'une tournée, si tu veux, il était intervenu dans plusieurs radios, et après, il a fait un montage de toutes ses interviews, et bien sûr, il a fait un petit clin d'œil à Faster Pussycat. Donc voilà, on est célèbres.
Alors peut-être maintenant une dernière question, une rubrique potin. Alors la question que tout le monde se pose donc en écoutant un PFM, donc qui sort avec qui dans cette radio, quoi.
Alors c'est bon, on sort avec tout le monde, on est échangiste.
Et toc. Et ouais, on est assis et ça tourne, c'est super. Tu vois, tu demandais d'où on tenait notre énergie. Voilà.
Tu poseras la question aux mecs d'Easy Riders, si ils en ont assez pour répondre.